Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, l'évangile d'aujourd'hui semble facile, et il ne l'est pas. Il semble facile parce que, eh bien, il fait fi de comportements au profit de la vérité du cœur, c'est pas difficile à comprendre, et on se dit qu'on a vite tout compris. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Je vous invite à voir deux questions. Une qui nous est familière, c'est la question des rites, et une deuxième qui a changé complètement par rapport au temps où le Christ écrit et parle, c'est la question du pur et de l'impur. Voyons d'abord cette question des rites. Vous voyez, les disciples du Seigneur ne posent pas certains rites prescrits par le Deutéronome, et donc par Dieu. Et puis, ça n'a pas l'air de le bouleverser, mais ça bouleverse les Juifs qui le lui reprochent. Le problème des rites, c'est-à-dire ce que nous faisons d'extérieur, c'est qu'ils sont bons. Eh oui, nous avons de nombreux rites humains d'abord. Qui ne va pas demander à cette rentrée, à ses voisins, les gens qu'ils vont rencontrer, systématiquement, vous allez leur demander s'ils ont passé de bonnes vacances, où est-ce qu'ils sont allés, s'ils ont eu du soleil, s'ils n'ont pas eu trop chaud, etc., etc. Nous avons de multiples rites pour nous saluer, qui nous permettent de nous reconnaître. Je reviens d'un pays, pour ceux qui, certains le savent, du Bangladesh, où, selon la manière dont vous saluez les gens, vous savez quelle est leur origine sociale et religieuse. Voilà. Et puis, je finirai, pour citer encore un rite humain, quand on couche un enfant, eh bien, il y a de multiples rites ô combien nécessaires qui lui permettent d'entrer dans le calme de la nuit. Bref, les rites existent, et il existe aussi des rites divins. Les Juifs pratiquaient de nombreux rites, et il serait peut-être un peu rapide de se moquer des rites. Vous savez, si vous avez des amis encore juifs très observants, eh bien, ils pratiquent de nombreux interdits dont on pourrait facilement se moquer. On ne peut pas allumer la lumière un jour de Shabbat, on ne peut pas ouvrir une porte avec la main, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Ces rites ont permis aux Juifs de garder le lien intime avec le Seigneur pendant des milliers d'années et aujourd'hui encore. Donc, on ne peut pas les rejeter trop facilement. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est la condamnation qui va tomber ici dans l'Évangile, qui est très claire, parce que le Seigneur, s'il y a bien un péché avec lequel il est assez clair, bon, il est clair avec tous les péchés, mais disons que celui-ci revient assez souvent, c'est celui de l'hypocrisie. Parce qu'effectivement, l'action extérieure engendre immédiatement une difficulté. Est-ce que ce que je montre à l'extérieur est conforme à ce qui est à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que je joue un rôle hypocritos, hein, c'est être en dessous de son personnage, c'est-à-dire, il y a ce que je vous montre, je vous souris, etc., et en fait, je vous déteste. C'est ça, l'hypocrisie. Je dis quelque chose et je pense autre chose. Je dis vous aimer et je ne vous aime pas. C'est ça qui est condamnable. À ce moment-là, le rite devient non seulement faux, mais même, il est l'instrument d'un acte pervers. Le rite devient quelque chose d'ignoble. Et c'est ce qu'il dit en utilisant la prophétie d'Isaïe. Isaïe a bien prophétisé de vous, hein, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Alors évidemment, nous voulons honorer le Seigneur de tout cœur. Nous voulons aimer ce que nous aimons, notre famille, nos amis, de tout cœur. Nous voulons faire tout collé à ce que nous faisons. Ce n'est pas toujours facile. La peur, la lâcheté, bref, beaucoup de raisons parfois nous en empêchent, mais c'est le but. Le but n'est pas de supprimer les actes. Un jour, une dame m'interpelle, ça arrive à la fin d'une messe, et me dit, peut-être devant la manière dont je célèbre la messe, ça arrive. « Oh là là, mais est-ce que vous n'en faites pas un petit peu trop des gestes et des trucs et tout ça? Est-ce que c'est pas trop ?» Je ne veux pas entrer dans une discussion liturgique, mais je lui ai répondu tout simplement, « Madame, bien sûr, il y a beaucoup de gestes, beaucoup de rites. La question n'est pas de savoir s'il y en a trop, la question est de savoir s'ils signifient quelque chose et s'ils sont vrais. Ainsi, votre mari, qui rentre tous les soirs, sempiternellement vous embrasse, vous dit qu'il vous aime et vous complimente. La question n'est pas de savoir s'il fait ça tous les jours et s'il en fait trop, la question est de savoir s'il vous aime vraiment. Le bon Dieu est toujours plein d'humour et j'avais tapé juste. La dame n'avait plus de mari et elle me répond, peut-être est-ce pour cela qu'il est parti. Bon, j'utilise un peu facilement une histoire, mais une histoire vraie m'est arrivée de l'autre côté de la Seine et il n'y a pas si longtemps. La question du rite, voyez-vous, dénoncée ici, ne la réglez pas trop facilement, car nous avons sans cesse à nous prononcer extérieurement. Et la question, c'est est-ce que nous aurons la force pour toujours dire le vrai geste, faire le vrai geste qui correspond intimement à notre foi, s'il s'agit d'un geste liturgique, à notre pensée ou à notre être. C'était le premier point. Le deuxième est encore plus obscur, c'est la question du pur et de l'impur. Mais il est malheureusement bien actuel. Je m'explique. Pour se garder sans tache, comme le dit saint Jacques dans la deuxième lecture, pour se garder pur, eh bien, c'est beaucoup plus facile de le faire avec des rites. Et oui, ça vous rassure et ça vous dit, ben voilà, c'était le règne de la loi. Et comme je l'ai dit, il était bon. Dieu n'a pas établi quelque chose de mauvais, Dieu n'a pas établi les mitzvot par ses prophètes et même par son interprétation de manière mauvaise. Mais voilà, le Seigneur, en permettant à ses disciples de ne pas se laver les mains, de ne pas accomplir ses rites, était en train de faire quelque chose. C'est saint Jérôme qui le dit mieux que moi. Dans un sens allégorique, dit-il, les disciples qui mangent sans s'être lavés les mains préfigurent la communion qui allait exister entre toutes les nations. Je traduis en clair, les rites de l'ancienne loi, les rites de pureté, les rites légaux, nous les avons laissés tomber. Mais alors pourquoi ? Bien sûr, nous avons gardé les commandements de vie, tu ne tueras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne mentiras pas, etc., etc. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu, je vous les donne dans le désordre. Nous avons laissé tomber les commandements légaux. Mais alors, comment fait-on pour savoir si c'est pur ou impur ? Eh bien, en quelque sorte, pour nous, la tâche est plus difficile. Le Seigneur a remplacé la loi des commandements par la loi de l'Esprit. En venant sur terre, en se faisant homme, il nous communique dans son exemple son propre esprit. C'est alors livré à notre conscience qu'il nous faut déterminer ce qui est bien, ce qui va nous garder pur et bon, et ce qui ne l'est pas. C'est ce qui s'appelle dans la tradition spirituelle le discernement du bien et du mal, le discernement des esprits, pour sans cesse me déterminer, car il n'y a pas de comportement préétabli, et même si nous avons encore gardé quelques rites de purification, ce n'est pas cela qui nous sauve, c'est l'exercice droit de notre conscience qui choisit le bien. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup plus dur, mais c'est beaucoup plus beau. Voilà que nous sommes mis à la hauteur de qui peut dire ce qui est bon profondément. C'est une charge importante. Et cela donne ce que l'on appelle la morale. La morale, c'est l'ensemble des pensées qui vont aboutir à des comportements, des règles et un jugement sur des comportements qui sont bons ou qui ne le sont pas. Mais cette morale, quelle qu'elle soit, en tout cas la morale chrétienne, n'est pas préfabriquée, elle est un instrument qui nous est donné de l'extérieur pour que, intérieurement, nous puissions choisir le bien. Alors, vous le comprenez, nous n'avons pas suffisamment travaillé cette morale qui mène à Dieu, qui doit nous rendre heureux, parce que nous l'avons négligée. Et parce que nous l'avons beaucoup négligé, je parle dans l'Église, comme à l'extérieur de l'Église, eh bien nous en sommes arrivés à des comportements dévoyés. Soyez attentifs à établir dans votre propre vie le bien, à choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas impur, ce qui n'est pas mauvais, et établissez-le dans votre famille, dans votre paroisse, auprès de vos amis. C'est le seul moyen véritable que nous avons de lutter contre le mal, où qu'il soit. Nous devons rétablir la volonté morale de faire le bien et de le faire à tout prix, d'abord au prix de la vérité, c'est une évidence. Alors, au début de cette année, qui vous voyez que je commente de très très loin sans vouloir y toucher, l'actualité bien lourde et triste qui nous vient au visage, croyez bien que ce n'est qu'un petit bout de l'iceberg, car toute notre société est touchée par le mal. Puissions-nous être les ferments de ceux qui vont rétablir le désir du bien et les actes bons extérieurs qui diront vraiment la bonté de notre cœur. Amen.